problèmes que vous prenez, même dans les problèmes de spoliation économique, la Crépoute, c'est toujours Wagner. À un moment ou à un autre, on voit Wagner intervenir et on voit Wagner qui prend la décision. Il faut vous dire aussi que si j'ai beaucoup développé cette première partie sur l'ensemble des problèmes, c'est que, notamment au niveau des camps Rochaudot et Girmel et également la Reichsuniversité de Strasbourg, avec toutes les expériences médicales qui ont été pratiquées, c'est qu'il y aura un deuxième temps à l'ouvrage. Il y aura un deuxième temps, et le deuxième temps, c'est précisément le procès des gardiens du camp du Choudor, du gardien de Chirmec, et des médecins de Chirmec et du Choudor. Vous voyez, donc c'est l'ensemble des compléments, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup développé ces aspects-là en première partie.
Revenons-en justement au procès de Wagner, qui s'ouvre à la justice de Strasbourg dans la salle d'assises le 23 avril 1946.
Oui, Wagner s'est rendu aux autorités américaines le 7 juin 1945. Je ne sais plus, absolument. On sait qu'il est parti précipitamment de Strasbourg le 1936, absolument. Et ensuite, il a aéré, donc j'ai repris ces déclarations qu'on a pu vérifier en faisant l'instruction du procès, par où il est passé, comment il s'est organisé. Et il avait encore une chose également que peu de gens savent, il avait reçu de Bormann l'ordre formel de se lancer dans ce qu'ils ont appelé l'opération Verwolf, c'est-à-dire une mission de résistance qu'il devait développer en prévention. Et il a, à différents endroits, il a ainsi stocké des armes pour attaquer la logistique des alliés. Il devait s'occuper notamment d'empêcher des liaisons radio et le ravitaillement des troupes. Hein, c'était ça leur objectif. Donc, même lorsqu'il a dissous finalement la Gauleitung qu'il avait derrière lui et l'ensemble de son staff, il va garder 4 ou 5 fidèles pour son chauffeur, et les 4 que l'on retrouvera d'ailleurs également au procès, c'est-à-dire Eun, le Gauleiter en second, son remplaçant, Hermann Eun, il va garder Gehrige, qui est le Regierungsrat, qui est, je dirais, un fonctionnaire, qui est le chef de cabinet, et il va garder Schubel, qui était le chef du personnel de la Gauleitung, qui est également, je dirais, un fonctionnaire du parti. C'est eux qui devaient faire de l'erreur, entre autres, hein, qui devaient opérer en embuscade, qui devaient faire des coups de main de cet ordre. Bon, le procès qui s'ouvre le 23 avril aurait dû finalement être le procès à la fois de l'annexion faite, le procès Wagner, le procès de la corporation de force, essentiellement. Malheureusement, cela ne va pas être le cas. Et cela ne va pas être le cas parce que on va y adjoindre un certain nombre d'autres personnages qui, certes, devaient répondre devant un acte devant la justice, mais peut-être pas mêler le tout avec le procès Wagner. C'est là où, je dirais, il y a la confusion des gens, et ça pose un vrai problème. Alors, Wagner, Reul, Gehrige et Schubert, ça c'est la grande action, et ça aurait pu très bien être le procès, si vous voulez, du grand acte. En fait, la corporation de temps, ça faisait une idée, ça me paraissait logique d'avoir un procès. Et puis comme on y ajoute Ludwig Hubert, Ludwig Seema et Richard Hubert, c'est-à-dire le président du tribunal du Sonderrecht, l'ancien substitut du tribunal du Sonderrecht et l'ancien procureur du tribunal du Sonderrecht, et bien là aussi vous aurez eu une idée en jugeant finalement les magistrats et qui ont quand même, néanmoins, je tiens quand même à le préciser, condamné, grosso modo, une soixantaine d'Alsaciens à mort, et il y avait quand même une bonne quarantaine d'exécutions. Donc, vous voyez, il y a, pour des faits de résistance, donc il y a quand même là un certain nombre je dirais, de plaignants qui étaient de la famille, qui étaient, c'était tout à fait logique, qui venaient en procès autour, si vous voulez, des membres du Sonderreich. Et puis on vient encore ajouter un Kreisleiter du nom de Grüner, qui était le Kreisleiter de Kahn et de Lera, mais qui lui a commis un crime de guerre caractérisé, puisque il a exécuté directement, personnellement, il a exécuté 4 aviateurs anglais qui étaient des prisonniers. Mais le crime a été commis non pas sur la rive gauche de Rhin, mais sur la rive droite, à Rheinweiler, de l'autre côté. Et de ce fait, on peut se demander comment le tribunal permanent militaire de Strasbourg était compétent. D'ailleurs, cette incompétence va être soulevée, ça va devenir toute une affaire à un point tel que la Cour de cassation va, à la fin du procès, et après le pouvoir, va reconnaître l'incompétence de cette juridiction, et il y aura un nouveau procès consacré à Brunel. Je vous rappelle que pour tous les faits et crimes de guerre commis sur le territoire occupé par les troupes françaises, il y avait une juridiction particulière à Rastatt. À Rastatt, qui était également un tribunal militaire, mais un tribunal militaire siégeant à Rastatt. Donc c'était en fait ce tribunal qui logiquement était compétent pour ce dernier cas. Alors pourquoi diable a-t-on mélangé les gens? Pourquoi diable a-t-on mélangé? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre, mais en mélangeant l'ensemble, on a minimisé un certain nombre de choses. Et le procès, si vous lisez les procès-verbaux, les contenus d'audience, on le remarque très bien, il y a une confusion énorme. Un jour, on parle de ces affaires des 4 aviateurs, Wagner dit, ça ne me regarde pas, moi j'ai pas tiré sur eux, j'ai rien à dire là-dessus. Alors on en discute pendant une demi-journée, il y a juste Brunner qui est concerné, on me dit, moi, j'en ai jamais entendu parler. Les substituts, les procureurs du centre de régime, nous, ça ne nous regarde pas. Donc vous voyez, on se retrouve dans des situations véritablement, je dirais, extraordinaires. Par moments, c'est plus comme situation. Et ce qui aurait dû être le procès de l'incorporation de force ne le sera pas. Et c'est ce qui donne une grande déception également aux Alsaciens. Ils se sont imaginés que ce procès va enfin leur apporter les éléments de culpabilité de Wagner, sa responsabilité. Alors, ce n'est que le 7e chef d'accusation. Ce n'est même pas le premier. Le premier, c'est cette affaire Ritz, parce que c'est relativement facile de prouver dans l'affaire Ritz que Wagner a outrepassé son pouvoir et qu'il a une responsabilité personnelle. Mais on ne parle pas en 46 d'incorporation de force. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir incité des Français à porter des armes contre la France en 43, 44, 45. C'est une manière détournée de parler de l'incorporation de force. Mais on n'en parle pas en tant que tel. Et c'est finalement ce qu'on aurait voulu entendre. Vous voyez, un grand procès avec un personnage de conférence qui était, au point de vue nazi, notre Robert Wagner, aurait eu une répercussion sur la France entière. Et vraisemblablement, avec un tel procès, on n'aurait pas ensuite été obligé constamment d'expliquer ce qu'est l'incorporation de force. Tout le monde aurait compris, tout le monde aurait eu en tête le procès d'Arnel, comme on a fait ultérieurement le procès d'Arnel pour la Shoah, etc., ou pour la résistance, et vous voyez, le problème aurait été mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Et il y en a également pour la population de frustration. Alors, il y a simplement le risque en 1946. Lorsque, il y a 9 jours d'audience, à chaque jour d'audience, il y a un monde fou dans les rues qui regarde passer les camions cellulaires amenant finalement les accusés depuis la prison de la citadelle jusqu'au palais de justice, jusque dans la salle des assises, qui est aujourd'hui encore toujours la salle des assises du tribunal de Strasbourg, au moins jusqu'à avant les travaux, et qui a été aussi comble de, je dirais, de revanche, entre guillemets, qui a été le lieu où siégeait également le centre de Gréchy. Donc là où Wagner expliquait finalement ses jugements, ben, il se retrouve dans la même salle, mais cette fois-ci comme accusé. Et sur le passage de ces camions cellulaires, il y a une foule énorme qui crie à mort, à mort. Hein. Tout le monde veut évidemment que ces gens-là soient condamnés à mort et exécutés. Et donc, après 9 jours d'audience, ce qui est quand même quelque chose de très bref, très bref, fut encore une fois la responsabilité de Wagner, fut son action. On aurait dû, après décortiquer tout ceci, on aurait dû étaler ça en long et en large pour que véritablement on puisse mieux cerner le personnage et mieux cerner le système hitlérien en Alsace. Et pas passer très très rapidement. J'ajoute qu'en plus, on était tombé sur un commissaire du gouvernement. Le colonel Domis, qui est un farceur, entre guillemets, parce que les journalistes de relais, les caricaturistes, le croc, il aime faire des grimaces, il interprète les déclarations des accusés en faisant des grimaces, en faisant des de la mimique, et puis quand il en va à bon coup, il le fait savoir en rassemble, hein, celui-là, je lui en ai touché un point. Bon, c'est pas non plus un comportement pour, je dirais, un procès serein, mais c'est peut-être l'esprit de 46. Hein, je ne veux pas accuser plus que de raison. Il n'empêche que tout ceci ne relève pas d'un très très bon procès. Voilà, on avait là, si vous voulez, de quoi faire un très grand procès, frapper un très grand coup. Et écrire une justice avec un grand J, on ne l'a pas fait. Alors le résultat, c'est que Wagner, Guérigué et Schubel et puis celui qui est absent, c'est-à-dire le président du tribunal du centre de l'Est, ou bon, on n'arrivera jamais à reprendre, et bien ceux-là sont condamnés à mort. Et le procureur va être acquitté. Parce qu'on va lui dire c'était un bon procureur, et avant il n'avait que suivre des ordres, etc. Entre nous, vous retrouverez là un trait caractéristique. C'est que le corps fonctionnaire, le coin épuré après-guerre, il faut quand même l'avouer, c'était la magistrature. Et il faut le dire aussi, si vous regardez les choses de très près, en Allemagne, la dénazification, parce que nous avons une éducation, et en Allemagne, on a pratiqué ce qu'on a appelé la dénazification. Bien, ceux qui ont été le moins dénazifiés, en quelque sorte, c'était à nouveau les juges. Il n'y a aucun juge en Allemagne qui avait condamné les résistants à mort et à des exécutions, a été inquiété pour son action directe. C'est pas lui qui était responsable, c'est la justice qui était responsable. Oui. Il n'a fait finalement que, je dirais, interpréter, agir, bon. Et son opinion de nazi n'a absolument pas influencé, semble-t-il, les décisions. Bon, on trouve la même chose. Quant à Brunner, le Kreisler, eh bien, lui aussi, il va se trouver en cassation, il va obtenir un deuxième procès. Quant aux 4 policiers qui sont en détention, eh bien, eux, ils vont également se pouvoir en cassation, mais leur pouvoir sera rejeté. La grâce sera rejeté par le général de Gaulle et ils seront donc exécutés le 14 août 1946 au fort Ney, c'est-à-dire au fort qui se trouve au nord de Strasbourg entre la Roberceau et la